Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Signy.
18h40, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL Soir, on défait le monde maintenant avec un trio très dissipé, j'ai l'impression. Ça va être compliqué ce soir. Cyprien Signy, Céline Landreau, Laurent Tessier. On a perdu Peggy par contre.
Excusez-moi, non, je suis là.
Ouais, c'est ça. C'est vous qui êtes très dissipé en fait. L'élément perturbateur de cette classe.
Je sors.
Allez, l'info autrement jusqu'à 19h, le menu Cyprien.
Ce soir, on défait les nappes phréatiques. Voilà plus de 50 ans qu'on nous prédit des pénuries d'eau. Les alertes sécheresses se succèdent. C'est encore le cas en ce moment. On a donc voulu comprendre ce qu'il en était vraiment. Et on va tout vous expliquer. Au menu également, Éric Zemmour à la reconquête de Saint-Tropez. Michel Fugain éternel et le Mont-Saint-Michel sur un fil. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
19 avril 1974, René Dumont, premier candidat écolo à la présidentielle, alerte sur le gaspillage de l'eau. Une première à la télé française à une heure de grande écoute. Depuis, entre les rapports du GIEC et des prévisions plus angoissantes les unes que les autres, plus personne n'élu de la question. Et alors que la France est en plein épisode de sécheresse, avec l'équipe dont défait le monde, on a choisi de s'intéresser de plus près au cycle de l'eau.
Depuis 1974, comment la situation a-t-elle évolué ? Y a-t-il plus ou moins d'eau qu'avant ? Quel est l'impact du dérèglement climatique sur nos nappes phréatiques ?
Pour en savoir plus, on a contacté Éric Serva. Il est directeur du Centre international UNESCO sur l'eau, situé à Montpellier. Et première chose à prendre en compte, écoutez bien, ça pourrait vous surprendre.
L'eau que vous utilisez, que nous utilisons, c'est la même que celle qui était bue par les dinosaures. Ça remet les choses en perspective d'une certaine manière.
Eh oui, en gros, sur la planète Terre, la quantité d'eau est à peu près constante depuis des millions d'années. Et c'est évidemment la même eau.
Rappelez-vous vos cours de primaire, c'est le cycle de l'eau qui s'évapore et revient sur Terre grâce à la pluie.
Et pourtant, les ressources en eau sont bien moins importantes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Explication.
Le cycle se modifie. En été, par exemple, la chaleur étant plus importante, les phénomènes d'évaporation sont plus importants. Et c'est de l'eau qui n'est plus dans les sols, c'est de l'eau qui n'est plus utilisée, c'est de l'eau qui ne va pas s'infiltrer. Et vous avez un système qui se met à fonctionner différemment et dans lequel vous avez une énergie qui est très forte, ce qui vous conduit, par exemple, à avoir des événements intenses qui vous restituent de l'eau sous forme de précipitation, mais sous une forme qui est pratiquement inutilisable dans une perspective de ressources en eau.
En gros, les phénomènes climatiques extrêmes plus fréquents, sécheresse ou pluie diluvienne, rendent l'eau moins exploitable pour nous. Donc, même si la quantité globale d'eau sur la Terre est la même, eh ben on en a moins.
Mais depuis 50 ans, cette eau, on a appris à mieux la gérer quand même.
Eh bien, c'est là tout le paradoxe. Pas du tout. Non seulement on en a moins, mais en plus, on en consomme plus.
L'urbanisation, le développement, des niveaux de confort qui s'accroissent, et c'est très bien qu'on vive de manière plus confortable, mais en même temps, vous avez une consommation de la ressource en eau qui augmente. Grosso modo, vous avez 70% de prélèvement sur la ressource qui concerne l'agriculture, 20% pour tout ce qui est des activités industrielles, on va dire économiques au sens large, et seulement 10% pour l'utilisation domestique. On culpabilise souvent les gens, disant faut faire des efforts, etc. Donc oui, il faut faire des efforts, c'est indiscutable. Mais bien évidemment, les marges les plus importantes à gagner en termes de meilleure gestion ne sont pas nécessairement sur les 10% de la consommation domestique. Mais vous imaginez bien que sur un secteur qui consomme 70% de la ressource en eau, les marges sont sans doute les plus importantes.
Mais on est quand même privilégiés, nous, en France.
On peut le croire, grâce à notre climat dit tempéré, sauf que...
Qui dit climat tempéré dit climat sans excès. Et puis ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que finalement, c'est un climat dans lequel il y a des situations qui sont des situations avec des excès. Les événements cévenols, les événements méditerranéens, par exemple, sont des événements qui génèrent de l'excès. Puis on découvre aussi qu'on est capable de se trouver dans des situations extrêmes en matière de sécheresse. On est quand même... confronté à des situations extrêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte parce qu'aujourd'hui, très clairement, aucune région n'est à l'abri.
Donc aujourd'hui, encore plus qu'en 1974, la gestion de l'eau reste un défi majeur.
Le bord l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Ah, ça, c'est Jean-Claude Van Damme.
Ah, ça, c'est Jean-Claude Van Damme.
C'est une surprise de notre réalisateur.
C'est une surprise de notre réalisateur.
Une facétie.
Comme ça. Et c'est une petite facétie, effectivement. Jean-Claude Van Damme, comme René Dumont, il voyait juste.
RTL. sous les radars.
Allez, on défait maintenant l'info passée sous les radars.
Mais c'est une info repérée par Laurent. Et pourtant, vous avez passé l'âge de jouer à la poupée, Laurent.
Ah mais les Barbies, ça parle à tout le monde.
Oui. Ouais.
Bon. Alors certes, longtemps, la Barbie, c'était un peu un condensé, vous savez, le cliché, un corps mince, chevelure blonde et raide, peau sans imperfection.
Oui.
Eh bien, la société Mattel s'adapte désormais au monde réel. Elle va lancer pour la première fois une Barbie équipée de prothèses auditives, mais aussi un Ken atteint du vitiligo, cette maladie de l'épiderme qui donne des taches blanches sur n'importe quelle partie de la peau. Eh bien, des nouveautés pour permettre aux enfants de jouer avec des poupées qui leur ressemblent et qui correspondent mieux au monde qui les entoure.
Alors, de mémoire, je suis pas spécialiste, hein, mais c'est pas la première fois que les Barbies se diversifient.
C'est vrai, vous avez raison, Cyprien. Ouais. Depuis 3 ans déjà, la marque a amorcé le mouvement. Elle met en avant plus de 175 poupées aux silhouettes différentes. En 2019, la société avait sorti une Barbie en fauteuil roulant et une poupée avec une prothèse de jambe. Ces nouvelles Barbies équipées de prothèses auditives et ces Ken atteints du vitiligo seront disponibles à partir du mois de septembre.
Les nouvelles Barbies. Petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir. Première info pour briller au dîner, ce sera avec Michel Fugain.
On l'invite. Viva la vida!
Autour de la table.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48, bonne fin de journée. On défait le monde dans RTL Soir. Voici une première info pour briller tout à l'heure au dîner.
Michel Fugain fête aujourd'hui ses 80 ans. Toute l'équipe d'On défait le monde lui souhaite
joyeux
un bon
anniversaire.
Il est ravi de l'apprendre. Et donc, Laurent, vous allez nous réécrire un bon roman.
C'est un bon roman, c'est une.
Ah, le tube de la rencontre des adolescents et des jeunes adultes durant l'été 1972 et même les années qui suivent, ils se sont trouvés au bord du chemin sur l'autoroute des vacances. Ouais. Ah, ces paroles résonnent, forcément.
Évidemment.
Mais sauf qu'au départ, Michel Fugain ne les voyait pas du tout sur une autoroute française, pas la 6, mais plus la route 66 aux États-Unis. Donc il y a quand même une différence. Et Pierre Delanoë, l'un des plus importants paroliers français, a préféré rendre cette histoire plus proche des auditeurs avec un départ en vacances dans le midi.
Il rentrait chez lui. Là-haut, vers le brouillard, elle descendait
vers la Floride.
Dans le midi, la Floride.
C'est parti à Los Angeles. Ça marche beaucoup moins bien, c'est vrai.
C'est sûr. Pardon et bon anniversaire quand même.
Bon anniversaire, Michel.
C'est un ce soir.
Et très belle interprétation de Jean-Michel à peu près à ma gauche.
Exactement.
Défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Allez, on met le cap vers le sud, là encore. Un cap vers le chic, cap vers le luxe, parce que ce soir, Céline Landreau a tranché. Elle a choisi un winner du jour.
Un grand gagnant, enfin une grande gagnante, une célèbre bourgade varoise qui vous fait rêver, Céline.
Ouais, une ville dont on a beaucoup, beaucoup parlé aujourd'hui.
Saint-Tropez,
car depuis ce matin, on sait que.
Éric Zemmour sera finalement candidat.
Dans le Var, aux législatives.
Le président de Reconquête a choisi la 4e circonscription. Alors on a cherché, pourquoi Saint-Tropez ? Certes, la ville de Saint-Tropez avait voté à 22% pour le candidat au premier tour de la présidentielle, mais d'entre d'autres communes, il a fait plus, 30% par exemple à Berzé-le-Châtel, en Saône-et-Loire. Alors, pourquoi choisir...
Le golfe de Saint-Tropez dans
mais
le Var.
Mais oui, surtout quand on connaît les obsessions du candidat.
D'immigration étrangère, l'immigration politique migratoire, d'étrangers, l'immigration à zéro.
Et quand on sait qu'un habitant de Saint-Tropez confiait à notre reporter Thomas Després il y a quelques jours...
Dans ce coin-là, on n'est pas débordé d'immigrés, hein.
Ouais, donc a priori, c'est pas ça. Et on ne peut pas imaginer que ce soit qu'une question de météo. Désolé, Peggy. Alors, pourquoi ? Pourquoi avoir jeté son dévolu sur Saint-Tropez ?
Jolie fille, luxe et discothèque. Chaque soir, Saint-Tropez passe ses habits de nuit.
Peut-être.
La fête est finie.
Ah non, non, non. Toujours ce goût pour l'ordre chez Éric Zemmour, à moins que ce ne soit...
Sur la plage abandonnée.
Mais oui, la plage, la mer, les maillots, le glamour de Brigitte Bardot.
Ah, moi, j'aime Brigitte Bardot, c'est ma copine, alors vraiment...
On va voir maintenant si c'est réciproque avec les Varois de la 4e circonscription, pas seulement bébé, ni Saint-Tropez.
Eh bien, réponse les 12 et 19 juin, les élections législatives à Saint-Tropez et à Cogolin aussi. C'est un peu moins connu que Saint-Tropez.
Cogolin, Draguignan, Grimaud.
Il a lancé sa campagne à Cogolin.
Le Luc, ouais. Exactement.
Il a lancé sur la plage de Cogolin sa campagne il y a quelques minutes à peine.
Cogolin, capitale de fabrication de pipes, figurez-vous. Je connais très bien Cogolin, je suis marié.
Vous fumez ?
C'est vrai ? Vous êtes marié à Cogolin ?
Tout à fait.
Alors ça, c'est, voilà, c'est une sacrée anecdote, ça. Dans le top anecdote,
ne rougissez pas,
elle rentre directement à la place numéro 2. Allez, petite pause dans un instant. Nouvelle info pour Brioude.
Quel rapport avec...
avec la Finlande.
Non, hein, c'est pas ça.
Avec le sujet.
Oui,
avec
le mariage, la Finlande,
et puis avec
Kogolin,
votre anecdote, je me suis mariée à Kogolin.
Parce que je connais bien la ville de Kogolin. Voilà,
c'est une émission très éclectique.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h54, RTL Soir continue, on défait toujours le monde jusqu'à 19h. Et voici donc une nouvelle occasion de briller au dîner. Maintenant vous savez que Cyprien s'est marié à Kogolin, mais on a d'autres choses encore plus intéressantes à vous apprendre.
Plus facile notamment, à ressortir en tout cas.
Plus facile à ressortir, et notamment sur la Finlande.
Oui, vous savez que la Finlande veut intégrer l'OTAN et que l'Eurovision, bah, c'est ce week-end. Alors rien à voir entre les deux infos, vous me direz. Eh bah, bien Céline, vous avez cherché un lien et vous avez fini par trouver en plus.
Oui, la Finlande qui a remporté pour la première fois l'Eurovision en 2006 et qui a fait triompher pour la première fois dans ce concours européen de la chanson du heavy metal. C'était le groupe Lordi qui l'emportait cette année-là.
Ça, ça a gagné.
Ouais. Exactement. C'est marrant parce que vous allez voir que vous auriez pu peut-être commenter, Julien.
Ouais, c'est
le groupe Lordi donc l'emportait avec son titre Hard Rock Alléluia, interprété par des artistes déguisés en orques. Et ce soir-là, au commentaire, ce n'était pas Julien Cellier, mais Michel Drucker et Claudicia. Et alors, vous allez voir qu'ils avaient eu du flair.
J'imaginais pas les lapons comme ça, moi.
Qui est la Finlande qui participe depuis 44 ans à l'Eurovision, mais n'a jamais gagné. C'est pas avec ça qu'ils gagneront.
Ah bah si. Le flair, vous avez dit. Bon.
Donc là j'ai le choix, puisqu'il faut que je choisisse la meilleure, comme chaque soir, des infos pour briller au dîner entre le heavy metal finlandais et Michel Fugain.
Votre choix musical.
Je préfère Michel Fugain.
Ah oui.
Bah oui, je choisis Michel.
Allez.
Bravo Laurent.
Marche ou rêve.
Allez, tous les soirs à cette heure-ci, vos projets les plus fous au bout du fil. C'est vraiment le cas aujourd'hui. Ah ouais. Bien fous au bout du fil. Et aujourd'hui c'est jeudi.
Et comme tous les jeudis.
Il va y avoir du sport.
Vos initiatives, vos défis en rapport avec le sport. Et franchement là, faut faire preuve vraiment de pas mal d'équilibre.
Ouais, accrochez-vous bien, faut pas avoir le vertige ni faire de crise d'angoisse. Nathan est un funambule de l'extrême, il va tenter le 24 mai de battre le record du monde de la plus longue traversée sur un fil au Mont-Saint-Michel. Bonsoir Nathan.
Bonsoir.
Cœur sensible, s'abstenir, vous serez à combien de mètres de hauteur?
Alors je serai à une centaine de mètres de hauteur, et puis après je serai plus bas parce que la sangle elle fait 2200 mètres de long, mais forcément elle va fléchir sous mon poids, donc je vais me rapprocher de la baie au milieu, puis après remonter vers le Mont Saint-Michel. Et je suis forcément complètement sécurisé, il n'y a aucun risque.
Attendez, la sangle elle fait 2 km de 200. Long. Vous allez marcher 2 km comme ça en l'air?
Je vais marcher plus de 2 km sur un fil, c'est ça.
Mais pourquoi?
Mais parce que j'aime bien ça, parce que j'y trouve une sensation de liberté. C'est mon métier, je fais ça depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai eu la chance d'être sur la Tour Eiffel et là je vais avoir la chance d'aller vraiment au Mont-Saint-Michel depuis le continent par les airs.
Alors vous nous avez donné la hauteur du fil à laquelle vous allez marcher, mais c'est quelle largeur ce fil? Vous marchez sur une ligne?
Il fait 20 mm.
2 cm.
Oui, 2 cm, voilà, c'est quasiment deux fois plus fin qu'un ticket de métro. La sangle est encore plus fine pour ce record, pour moins qu'elle prenne le vent. Donc elle est très fine. J'aurai les bras en l'air pendant plus de 2 heures, ça va me prendre plus de 2 heures. Donc on se prépare principalement, là, moi je fais des allers-retours sur une highline, j'habite en montagne, j'ai une ligne qui traverse entre deux vallées et je passe du temps à en faire. C'est vraiment la meilleure manière pour s'entraîner.
Et alors, j'ai une question de matériel, j'adore le matos. Vous y allez pieds nus ou avec des chaussures spéciales?
En vrai, j'y vais pieds nus. J'y vais pieds nus pour sentir un peu mieux les choses. Je pratique quasiment tout le temps pieds nus.
Le funambulisme, c'est... je sais pas, c'est une passion qui vient comment? Comment on se dit, tiens, je vais faire ça?
Alors moi, en pratique, c'est la slackline, donc un dérivé un peu du funambulisme. Ça se commence entre deux arbres dans un parc, vous avez peut-être déjà vu. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté un peu méditatif. C'est quelqu'un qui avait une attention un peu diffuse, qui partait dans tous les sens. Quand on marche sur un fil, on est forcément dans l'instant présent, connecté avec tout ce qui est autour, et c'est ça qui m'a plu.
D'ailleurs, j'ai une question toute bête. Quand vous vous entraînez tout seul entre deux vallées, comment vous faites pour remonter quand vous tombez? Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, aujourd'hui je tombe quasiment plus, hein, mais quand j'ai appris, je suis tombé plein de fois. Ça fait vraiment partie de la pratique. Et ben, quand je tombe, il faut imaginer que je suis pendu à une corde qui fait 2 mètres. Je me retrouve dessous et je remonte avec la force des bras. Il y a une petite technique à prendre. C'est pas très compliqué. Alors au début, c'est impossible quand on sait pas faire. Et puis on apprend. Et voilà.
Bah, j'ai envie de dire bonne chance, hein, Nathan, pour ce défi au Mont-Saint-Michel, 2 km à parcourir sur un fil. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.
Merci Nathan et bon courage sur surtout. Ah ouais, bah, ouais, surtout. Merci à vous, les amis, dont Défait le Monde. On se retrouve non pas demain, mais en début de semaine prochaine pour défaire à nouveau le monde dans RTL Soir, parce que le vendredi, on refait nos
régions
à 18h40.